Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça y est, c'est le week-end et c'est l'heure de votre rendez-vous avec Nous Voilà Bien. Les températures grimpent, j'espère que votre morale aussi. Et si ce n'est pas le cas, eh bien comptez sur nous pour vous envoyer de l'énergie positive entre 9h15 et 10h sur RTL. Le programme du jour, il est riche, il est enthousiasmant. On ne perd pas une minute, allons-y gaiement. On a tous envie de prendre un peu le large et de souffler après cette période bien compliquée que nous avons tous traversée. Alors, est-ce une bonne idée de partir en camping? Et que penser des logements insolites qui nous sont proposés ces dernières années? Suivez le guide Bruno Lacroix, rédacteur en chef du site campingfrance.com et du magazine professionnel L'Office des terrains de camping. C'est le coup de cœur de la semaine. Lucas, 22 ans, a fondé Moby Travel. C'est une plateforme de réservation de vacances en ligne dédiée aux personnes ayant des besoins spécifique d'accessibilité. Il va tout nous expliquer un petit peu plus tard dans l'émission. Et puis on a fait le plein d'apérovision au confinement, mais maintenant on veut siroter des nectars dignes de ce nom. Alors comment faire un bon cocktail? Grâce à Johan Demerseman, barman et formateur en mixologie depuis 10 ans, vous allez concurrencer Tom Cruise dans le film Cocktail.
On n'est pas bien là tous les deux? Camping sauvage.
Putain, de moustiquaires de merde.
Oh, ça va, on va bien se reposer là.
J'adore la tente, regarde toute la place qu'on a là.
T'as oublié ton duvet?
T'as fermé la bagnole?
Putain. T'as bien fermé la moustiquaire?
Putain, il pleut. Merde, les affaires. Quelle idée de merde, le camping.
Alors, est-ce que c'en est vraiment une idée de M? On en parle avec Bruno Lacroix ce matin. Bonjour Bruno Lacroix, merci d'être avec
nous.
Vous êtes rédacteur en chef du site campingfrance.com, du magazine professionnel L'Office des terrains de camping. Alors évidemment, le palmacho, c'est de l'humour. Mais c'est vrai que le camping, c'est le mode de vacances préféré des Français. Pourquoi est-ce que c'est si populaire?
Bah parce que ça répond à des valeurs qui sont toujours en vogue, hein. C'est d'abord la famille, c'est les vacances en famille, et puis après ça regroupe des valeurs sûres qui sont la nature d'une part, l'espace, on a beaucoup d'espace sur les terrains de camping, et après il y a le territoire aussi, hein, l'ancrage dans le territoire c'est important, et puis les loisirs, parce que de plus en plus les campings sont aptes à proposer des loisirs à leurs clients.
Oui, ça devient un univers finalement, je dirais, quelque part. Le camping, c'est pas seulement une tente, hein, comme on a pu le connaître à une époque, qu'on essayait de planter avec ses sardines dans le sable. Les hébergements, ils ont vachement évolué, l'espace a évolué, les accueils sont complètement différents aujourd'hui.
Oui, complètement, ça a bien évolué en une trentaine d'années. Mais ce que vous décriviez tout de suite, la tente avec les sardines à planter, ça existe toujours, hein, ça reste une valeur sûre du camping.
Mais c'est super.
Que recherchent certains campeurs. Mais c'est vrai que la principale, aujourd'hui, des vacanciers peuvent venir avec leur matériel, que ce soit une tente plus ou moins élaborée, une caravane, un camping-car, ils peuvent venir avec leur matériel. Mais la grosse évolution du camping en 20 ans, en 30 ans, c'est qu'il a proposé des hébergements et que du coup, maintenant, on peut y venir avec juste ses bagages et on est hébergé dans un mobil-home, dans un chalet.
Voilà, c'est moins lourd en fait à gérer, c'est ça que vous nous expliquez. Hein, parce
exactement,
qu'à une époque,
exactement.
On trimballait finalement son camping-car, sa caravane ou sa tente. Là, aujourd'hui, en fait, les campings peuvent vous accueillir. On arrive avec nos valises et on passe de bonnes vacances. Il y a quand même différentes formules de camping en fait. Il y en a pour tous les goûts aujourd'hui.
Ah oui, complètement. Bah oui, parce que ce que je vous expliquais tout de suite, c'est que le camping tout simple, le petit camping, ce petit coin de nature dans lequel on vient avec son matériel, ça existe encore et ça reste un moyen simple et très abordable de passer ses vacances. Et à l'autre extrémité du spectre, on a le véritable club de vacances qui vous propose de venir une semaine, 15 jours, et si vous voulez, ne pas quitter le camping parce que vous allez tout trouver sur place. Vous allez trouver d'abord des hébergements de qualité, un parc aquatique somptueux avec les toboggans, avec un spa, avec jacuzzi, avec tout ce que vous voulez, et tous les commerces dont vous pouvez avoir besoin pour passer une semaine ou 15 jours. Et ça, sans compter toutes les animations qui sont organisées par le camping ou avec les prestataires extérieurs. Donc, vous pouvez vraiment, il y a tout un spectre hyper large qui vous permet de passer tout type de vacances au choix, vraiment au choix.
Il existe des labels pour s'y retrouver ou des chartes du camping, en fait, Bruno Lacroix?
Oui, alors en label, oui, il y a différents labels de qualité, dont un majeur qui s'appelle Camping Qualité, donc qui régit un millier de campings, on va dire, en France, qui traite surtout de l'accueil, du développement durable, etc. Donc ça, c'est un label de qualité. Après, il y a des labels qui sont plus ou moins thématiques. Typiquement, il y a un label qui s'appelle Tourisme et Handicap, donc pour l'accueil des handicapés. Il y a pour les randonneurs un peu sportifs, il y a l'accueil vélo. Et puis il y a des labels plus écolos, comme la Clé Verte ou l'Écolabel. Donc là, évidemment, là, on comprend tout de suite la thématique. L'autre, en charte de qualité, vous avez aussi, comme il y a beaucoup, le marché s'est structuré, il y a beaucoup de campings indépendants, il en reste beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de chaînes et de groupes qui se sont constitués au fil de ces 20 dernières années, et beaucoup de ces chaînes et de ces groupes ont leur propre label de qualité et les rendent publics sur leur site internet.
Est-ce qu'il y a des campings partout, Bruno Lacroix ? J'entends à la montagne, au bord de la mer, en pleine campagne, dans des cadres complètement magnifiques. C'est pas la même chose que de créer un hôtel. Le camping, non. C'est quelque chose de plus léger, qui s'intègre plus à la nature. Est-ce qu'on peut aussi y retrouver des décors absolument inédits et fabuleux ?
Ouais, bah par définition, le camping, c'est nature. Donc, c'est la nature, où que ce soit. Donc, on a cette chance en France. La France, c'est vraiment le pays du camping, le pays où il y en a le plus par rapport à la superficie. Et, alors, c'est vrai qu'il y a un attrait majeur et indéniable pour l'eau, quel que soit le type de quelle en soit la source, on va dire. Donc, c'est la mer, évidemment, les lacs et les rivières. Donc, ça reste un environnement privilégié pour les vacanciers. Mais à côté de ça, il y a beaucoup de gens qui beaucoup de clients de vacanciers qui cherchent aussi un peu plus de tranquillité, qui vont aller soit en rétro-littoral, donc à quelques dizaines de kilomètres, on va dire, de la mer, mais il y a aussi des gens qui vont privilégier la montagne et la campagne pour des vacances complètement différentes, hein, complètement immergées dans la nature, ou alors pour faire de la randonnée, ou alors visiter des sites dont regorge la France. Donc oui, il y a vraiment un maillage territorial du camping qui est fabuleux en France. Et ça,
il y a combien de campings en France?
Ouais. Bah, 10 000 en comptant les campings à la ferme et les aires naturelles, mais 8 000 campings, on va dire, avec une structure vraiment typiquement camping, quoi, comme on la connaît.
Vous parliez tout à l'heure de spa, de piscine, d'animation. On a le sentiment que parfois certains campings aujourd'hui n'ont plus rien à envier à l'hôtellerie traditionnelle dite de luxe. Est-ce que c'est toujours aussi intéressant financièrement des vacances au camping?
Alors oui, ça reste intéressant. Alors, si on compare typiquement ce que vous venez d'évoquer, le côté très luxueux, forcément on n'est pas dans la frange de prix qui est la plus accessible. Un camping 5 étoiles qui a tous ces équipements là, forcément il va coûter un peu cher, mais à prestation égale par rapport à un type d'hébergement que vous avez cité, l'hôtel ou un village de vacances, etc., le rapport prestation prix il est imbattable et en faveur du camping, ça c'est sûr. C'est pour ça que ça reste, de toute façon, quel que soit le type de camping qu'on choisit, ça reste, par rapport à ce qu'on peut comparer, ça reste le plus intéressant.
Bon, Bruno Lacroix, vous restez avec nous car on a encore plein de questions à vous poser. D'ailleurs, on va continuer à parler du budget camping. Vous allez nous donner une fourchette de prix. Et puis, on parlera aussi des hébergements insolites. Bah oui, moi, j'ai toujours rêvé de dormir dans une yourte. Vous nous direz à quoi ça ressemble. À tout de suite sur RTL.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
Dans un instant, vous entendrez notre coup de cœur pour le fondateur de Moby Travel. Il vous expliquera justement de quoi il s'agit. Ça peut changer les vacances de ceux qui nous écoutent. Et puis, en fin d'émission, Johan Demerseman sera notre nouveau meilleur copain parce qu'il est barman. Il va nous expliquer comment faire des cocktails. Mais pour l'heure, on part en vacances insolites avec Bruno Lacroix. Vous connaissez cette série, Bruno Lacroix ?
Oui, oui.
Vous la regardez, Camping Paradis ?
Ah ben, forcément, j'ai été obligé de la regarder pour savoir comment c'était par rapport à la réalité. Ouais.
Alors, Bruno Lacroix, vous êtes rédacteur en chef du site campingfrance.com. On parlait des campings il y a un instant, on va parler des vacances insolites. Juste une chose quand même, est-ce que vous avez une fourchette de prix un petit peu au niveau des campings ? On se disait il y a un instant, bon, c'est plus intéressant qu'un hôtel et puis ça peut offrir en même temps parfois des prestations identiques qu'un 5 étoiles. Mais en termes de prix, ça donne quoi pour une famille moyenne ?
Ah, je vais vous donner une fourchette. Alors pour un emplacement nu, c'est-à-dire quand vous venez avec votre matériel, que ce soit une tente ou une caravane, pour deux personnes, avec l'électricité, on va compter entre 16 euros et pour un camping une étoile et 51 euros pour un 5 étoiles. C'est la moyenne qu'on établit chaque année. Et pour un mobile home, donc là, vous venez juste avec vos bagages et vous louez votre hébergement. Pour un camping une étoile, on démarre aux alentours de 500 euros la semaine. Là, c'est la semaine. Et pour un 5 étoiles, ça peut monter jusqu'à 1600 euros.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
C'est quoi des vacances insolites, Bruno Lacroix ?
Alors, des vacances insolites, ça peut prendre divers caractères. En camping, en camping, en fait, on parle surtout d'hébergement insolite. C'est-à-dire quand le camping ajoute à son panel d'hébergement locatif des hébergements qui sortent un peu de l'ordinaire. Alors ça va de la tente lodge un peu façon Out of Africa jusqu'à la yourte, au tipi ou à la cabane dans les arbres. Voir s'il y a un plan d'eau, ça peut être une cabane sur l'eau, sur flotteur. Alors, en fonction un peu de cette typologie d'hébergement, ça va plutôt ressembler à un court séjour pour un week-end, parce qu'il y a des hébergements qui sont certes insolites, mais pas forcément hyper confortables. Mais par contre, dans certains, comme la tente loge, le tipi ou la yourte, on peut passer une semaine de vacances facilement.
Et dites-moi, il y a Robert Redford dans la tente de Out of Africa, ou c'est mort ?
Ah, faut le commander longtemps à l'avance.
Ah ouais, d'accord, ok. Bon, très bien, donc pour 2025, je vous le commanderai, voilà. Ce sera avec plaisir. En fait, ce qu'on propose dans ces cas-là, dans ce type de séjour, sont des expériences un petit peu uniques, hein. C'est ça,
ouais,
le but.
Oui, voilà, c'est vraiment sortir de l'ordinaire, ça, parce que bon, un hébergement de qualité aujourd'hui sur un camping, c'est très proche de la maison ou de l'appartement. Alors oui, ça apporte une petite touche de piquant en plus de dormir dans une tente d'Indien ou dans une cabane dans les arbres, quoi, parce que c'est là vraiment, on sort complètement de l'ordinaire. Et c'est vrai que ça s'entend plutôt pour un court séjour, un week-end ou 2-3 jours en famille. Et là, on vit une aventure de Robinson qui sort vraiment de l'ordinaire. Ouais.
Et il y en a pour tous les budgets ?
Alors forcément, ça c'est un tout petit peu plus onéreux qu'un hébergement standard. Hein. On peut compter, je sais pas, 150 à partir de 150 euros la nuit selon le type d'hébergement, quoi. Pour 2 à 3 personnes ou 2 à 4 personnes selon le type. Pour une cabane dans les arbres, pour une nuit. Après, si c'est un week-end et en fonction des prestations qui sont adjointes juste à la location, parce qu'il peut y avoir les paniers repas qu'on nous amène le matin ou alors un service de restauration qui est assuré par le camping. Donc il y a un panel de prestations additionnelles qu'il faut prendre en compte. Mais oui, c'est forcément un peu plus onéreux qu'un hébergement standard.
Bon, en tout cas, la situation actuelle et cette sortie de confinement, effectivement, va peut-être amener certains à découvrir cet été le camping partout en France et même les hébergements insolites dont nous venons de parler. Merci beaucoup Bruno Lacroix d'avoir passé ce début de week-end avec nous.
Merci à vous.
Et puis, restez à notre écoute car dans un instant, on va parler d'un coup de cœur justement, le coup de cœur de Nous Voilà Bien. Merci Bruno.
Nous Voilà Bien sur RTL avec Flavie Flamand.
Louis.fr.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
Moi, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'écoute Bruno Lacroix, hein, dans Nous Voilà Bien, je me dis, tiens, c'est sympa les vacances au camping. Il y a plein de campings différents partout en France. Et puis, il y a même des hébergements insolites. Et je ne sais pas vous, mais dormir sous une yourte, c'est quand même une super idée. Est-ce que vous savez faire des cocktails comme Tom Cruise dans le film ? Eh bien, non. Eh bien, vous allez dans un instant entendre les recettes de Johan Demmerseman. Mais pour l'instant...
Nous voilà bien, le coup de cœur de Flavie.
Enfin, le coup de cœur de Flavie, c'est le coup de cœur de la rédaction de Nous Voilà Bien quand on a entendu parler de Moby Travel. Bonjour, Lucas Guébard.
Bonjour.
Soyez le bienvenu sur RTL. Vous êtes le fondateur et le président, justement, de Moby Travel. C'est quoi Moby Travel ?
Moby Travel, c'est la première plateforme de réservation de vacances dédiée aux personnes âgées en situation de handicap ou à mobilité réduite, où nous leur proposons que des logements qui sont certifiés et vérifiés pour éviter les mauvaises surprises en vacances quand on a un besoin spécifique.
Mais c'est génial parce que vous avez 22 ans, si je ne m'abuse. Comment est-ce qu'elle vous est née, elle est née cette idée ? Comment ça vous est venu ?
Alors en fait, j'ai un proche en situation de handicap et tous les ans, on avait D'accord. beaucoup de mal pour partir en vacances, soit quand on arrivait sur place, le logement n'était pas accessible et donc on réservait avec des plateformes standards et on avait des grosses mauvaises surprises. Donc on faisait des allers-retours. On a pu faire, on est lyonnais, donc du Lyon-la-Baule aller-retour parce que le logement n'était pas adapté. Et voilà. Sinon, on avait le choix. On pouvait partir avec une agence de voyage adaptée, comme il en existe, mais il fallait qu'on paye 3 à 4 fois plus cher notre voyage parce que on avait un handicap et qu'il y avait des besoins spécifiques. Et donc tout était surfacturé et ça coûtait très cher au global. Donc du coup, j'ai décidé de créer Moby Travel pour avoir une vraie solution qui soit facile, simple et surtout où on n'ait pas de mauvaises surprises.
Alors comment ça fonctionne justement ?
Alors Moby Travel, en fait, on va aller vérifier tous les logements qu'on propose sur notre plateforme, soit nous-mêmes, soit avec un réseau d'ambassadeurs. qui sont nos clients, qui vont aller classifier les établissements entre une et quatre abeilles. Une abeille pour un logement moyennement accessible pour une personne âgée en déambulateur, par exemple, et quatre abeilles pour un logement parfaitement accessible qui peut accueillir sur place ce qu'on appelle une HAD, donc une hospitalisation à domicile. Et ensuite, le client réserve son séjour exactement comme sur toutes les plateformes. Il prend son logement, ensuite il peut choisir son taxi, sa location de voiture en fonction de sa mobilité. S'il est en fauteuil roulant électrique, ce sera un véhicule qu'on appelle TPMR. S'il ne l'est pas, ça peut être une location standard. Et en fait, tout est adapté aux besoins des utilisateurs du début à la fin, donc presque au moment où il part de chez lui jusqu'à ce qu'il arrive sur place.
Mais alors justement, vous proposez un large choix de logements chez Mobi Travel ?
Aujourd'hui, on a plus de 5000 logements dans plus de 15 destinations, donc partout en France, mais aussi à l'étranger, dans des destinations phares comme New York. On a aussi Bali pour l'atypique. Donc on a un petit peu tout pour que tous nos voyageurs puissent partir, en fait, comme tout le monde, sans avoir à se préoccuper de leur mobilité.
Et les logements, dans ces cas-là, comment vous faites ? Ils ont été vérifiés ?
Alors oui, du coup, c'est par soit avec notre label, sinon on travaille avec des labels nationaux. Par exemple, au Québec, on travaille avec Kéroul, qui est le label national, pour faire toute la vérification des établissements sur place.
Vous parliez justement de personnes qui parfois sont en situation vraiment de handicap. Est-ce que vous proposez également des services médicaux dans ces cas-là pour les vacances ?
Absolument, oui. Donc ça, c'est vraiment une de nos grosses valeurs ajoutées. C'est que si nos voyageurs ont besoin de matériel médical, d'aide médicale, on s'en occupe, et tout ça gratuitement. On ne facture pas de frais de dossier. C'est vraiment un service qu'on veut gratuit et accessible à tous. Et donc, on leur livre sur place tout ce qui est matériel médical, aide médicale. Et on va jusqu'à même faire de l'HAD. Donc, c'est-à-dire qu'une personne qui a eu un accident récemment, qui est hospitalisée, alitée, on peut lui proposer un séjour comme si elle était à l'hôpital, mais du coup, en vacances, avec vraiment une prestation globale de qualité. Et ça, c'est unique.
Alors en fait, on peut partir en vacances, si on vous écoute, avec tout le confort et les besoins que le handicap implique, mais tout ça sans se ruiner, quoi. Et ça, c'est le but de Mobi Travel.
C'est exactement ça. C'est vraiment pourquoi j'ai créé Mobi Travel. J'en avais marre, premièrement, de ne pas pouvoir partir en ayant des mauvaises surprises tout le temps, etc. Et ensuite, ce que je voulais, c'était arrêter de me ruiner quand je veux partir en vacances avec ma famille. Et du coup, Mobi Travel, ça réunit ces deux envies-là, et on a même ajouté un troisième besoin des utilisateurs, c'est d'apporter du matériel médical et de l'aide médicale en plus. Et enfin, là, on est en train de sortir une version un petit peu de TripAdvisor du handicap, pour que demain, en fait, on puisse vraiment tout avoir jusqu'à l'activité sur place pendant le séjour, avec une intégration totale.
Eh bien, comme quoi, parfois, effectivement, il y a des situations qui sont que l'on ressent comme injustes et qui nous font réagir et entreprendre. Je rappelle que vous avez 22 ans, Lucas, et que nous, on a trouvé que c'était vachement bien. Donc, on avait envie de vous mettre à l'honneur dans cette émission. Donc, je rappelle Mobi Travel à nos auditeurs qui pourraient être intéressés. Ça s'écrit M-O-B-E-E Travel, T-R-A-V-E-L. Merci beaucoup, Lucas Guébard. Et dites-moi, vous travaillez pas sérieusement sur Mobi Travel, vous faites des cocktails parfois ?
Ça m'arrive, oui, de faire des cocktails, c'est assez sympathique.
Ah bah génial, restez à notre écoute parce que peut-être que vous allez vous y retrouver justement dans un instant. On va avoir un barman sur cette antenne, il va nous rejoindre tout de suite, c'est Johan Demersman. Merci beaucoup, au revoir Lucas. Je suis sûre que vous faites beaucoup mieux que Tom Cruise, Johan. Bonjour, Johan.
Bonjour, Flavie. Comment ça va?
Mais ça va et vous?
Bah oui, très très bien. Merci beaucoup. Ravi de vous retrouver.
Bah moi aussi, vous êtes formateur en mixologie depuis 10 ans. Vous êtes fondateur de l'atelier Cocktailier à Rennes. C'est un espace qui est entièrement dédié aux cours de cocktail pour les particuliers et les professionnels. Vous avez remporté plusieurs compétitions. Bref, vous êtes un chef, Johan. Et merci d'être avec nous. C'est tout un art de faire les cocktails. Hein.
Oui, en effet. C'est vrai que le cocktail est un art. En fait, on parle de l'art de la mixologie. C'est un terme qui est apparu au 19e siècle aux États-Unis. Et en fait, c'est le savoir-faire lié à l'élaboration du cocktail. Donc, tout ce qui concerne, en fait, l'art du mélange. Le terme est apparu dans le dictionnaire de la langue française en 2018. Donc oui, le cocktail est un art.
Très bien. Les cocktails les plus populaires, ce sont lesquels ? Faites-nous rêver un peu.
Alors, pour les cocktails historiques, je pense que c'est important de les citer. On a bien entendu le Dry Martini. Alors, c'est pas un cocktail qu'on consomme particulièrement en France, mais c'est un grand classique américain et anglais. On a aussi le Old Fashion, donc qui est actuellement le cocktail numéro 1 le plus commandé dans les bars à cocktails.
Oui. Qu'est-ce qu'il a, celui-là, qui est particulier?
Le Old Fashion, il permet tout simplement de sublimer une eau de vie vieillie. C'est vraiment un cocktail ancien, comme son nom l'indique, le Old Fashion. Ouais. Mais malgré en fait son ancienneté, il reste toujours actuel par sa simplicité et en même temps sa complexité, puisqu'on a uniquement du sucre, du bitter, vous savez, l'angostura bitter qui exhauste le goût des cocktails. Et ensuite, on choisit son alcool favori sur glace, tout simplement. Donc c'est vraiment un cocktail intemporel. Et puis, on peut citer le Negroni aussi, parce que c'est le cousin de l'Americano. Donc, en fait, à base de gin, de vermouth italien et de Campari. Le Negroni, très, très populaire actuellement. Et enfin, le Mojito. Bien entendu, c'est le grand classique de ces 15 dernières années pour les cocktails historiques. Et j'ai envie de citer deux néoclassiques. Vous savez, ces cocktails qui ont été élaborés au début des années 2000. Le Pornstar Martini a ce cocktail avec de la vodka à la vanille et du fruit de la passion accompagné de champagne. Donc celui-là, il est vraiment actuellement le cocktail numéro 1, on peut dire. D'accord. Et le Gin Basil Smash pour terminer, parce que c'est le premier cocktail qui a valorisé le basilic, et donc avec du sucre, du citron et du gin. C'est estival, c'est vraiment un cocktail qui là actuellement est de saison.
Alors, voilà, bien évidemment, tout ça à consommer avec modération. Je vais vous avouer quelque chose. Sur tous ceux que vous avez cités, je n'en ai goûté qu'un. Le plus populaire, je dirais, qui est le Mojito. Voilà. Mais le reste, je ne les connais pas. Alors, on va se retrouver dans un instant parce qu'on s'interroge, évidemment, parce que maintenant, on a envie d'essayer. Mais quand on vous voit vous faire, on ne peut pas tous avoir un Johan à la maison. Donc, il faut bien avoir du matériel. Vous allez nous donner des conseils. Comment est-ce qu'on mélange les ingrédients? Est-ce qu'on met toujours des glaçons? Et puis, vous allez nous donner une recette de cocktail avec alcool et un mocktail. Ce sont les cocktails sans alcool. Ce sera dans un instant sur RTL. À tout de suite, Johan.
Entrepreneur.com.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
On a parlé vacances et puis ben là on se sent carrément en vacances avec Johan Demerseman qui est barman et qui est avec nous et qui dans un instant va nous donner des recettes de cocktails.
Mister Cocktail. Oh, Mister Cocktail. Mister Cocktail. Sans alcool, la fête est plus folle.
Ah bah en fait, aujourd'hui, il existe des cocktails et des mocktails, Johan. C'est ça qui est important aussi. Hein, c'est qu'il y a une vraie tendance aux cocktails sans alcool. Mister Cocktail, c'était des cocktails tout faits, c'est ça? C'était un truc tout vilain, tout vilain, pas bon de supermarché. Nous, on parle des vrais cocktails, là. D'accord,
voilà, exactement.
Alors, de quel matériel est-ce que j'ai besoin pour faire des cocktails? Est-ce que c'est coûteux? Est-ce que c'est compliqué en fait à obtenir?
Alors, non, ça reste vraiment accessible dans tout bon magasin de cuisine. Je pense que pour commencer, il faut donc un jigger et une bar spoon. Alors, un jigger, en fait, c'est l'ustensile qui permet de mesurer les ingrédients avec précision, un peu comme en pâtisserie, parce que ça nous permet de reproduire les recettes. Donc, il y en a de 2 centilitres et de 4 centilitres, donc c'est assez accessible. Ensuite, la bar spoon, c'est tout simplement la cuillère du barman. Donc, la cuillère à mélange qu'on trouve également facilement. Si je vous cite ces deux-là, c'est que ça permet de réaliser les cocktails les plus simples pour commencer, c'est-à-dire les cocktails directement au verre, comme par exemple les highballs, donc le gin tonic, etc. Ensuite, si on ajoute le pilon, là, on va pouvoir réaliser des cocktails pilés, comme le mojito, la caipirinha. Donc déjà, avec ces trois ustensiles, ça nous permet déjà de réaliser un certain nombre de cocktails. Et enfin, je dirais un shaker 3 pièces. Voilà, ça n'est pas indispensable, mais si vous en avez un, le shaker 3 pièces, c'est un peu le shaker grand public. Vous savez, il y a la passoire intégrée qui permet de filtrer le contenu du shaker dans le verre. Alors là, si vous avez ça, vous êtes au top pour commencer.
Ouais, après, il faut réussir à les faire. Ah oui, le shaker 3 pièces, effectivement, c'est pas comme les maillots de bain ou comme les costumes, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un shaker particulier, quoi. Hein, on a compris, c'est le top du shaker. Ok, exactement. Très bien. Alors, maintenant que j'ai mon matériel, Johan, est-ce qu'il y a une façon aussi de mélanger mes ingrédients? Est-ce qu'il y a un ordre pour faire les cocktails?
Alors oui, je veux dire, tout comme en cuisine, il y a souvent un ordre d'élaboration pour avoir un cocktail équilibré. Si on reprend l'exemple des cocktails réalisés directement au verre, qui sont très simples, donc un cocktail, c'est un équilibre entre deux ingrédients au moins. Si on prend le cas du gin and tonic, vous allez verser le gin, incorporer la glace et allonger de tonic. Et ensuite, il va falloir remuer à l'aide de la cuillère à mélanger. Là, ça fera toute la différence. Si vous réalisez un cocktail avec des fruits, il faut toujours piler les fruits avec le sucre et le citron, mais sans les autres ingrédients. Pourquoi ? Parce qu'on cherche à avoir l'homogénéité et retrouver toutes les saveurs du fruit ou de l'herbe aromatique. Et puis enfin, si vous faites un cocktail au shaker, il est préférable de commencer à verser les ingrédients du moins alcoolisé au plus alcoolisé, et puis ensuite de secouer de toute votre énergie, je dirais de tout votre amour, pour avoir un excellent cocktail.
Et il y a une technique particulière pour bien secouer, Johan ?
Alors, une technique, j'ose dire, ce qu'il faut, c'est être vraiment énergique. Après, c'est vrai qu'en général, lorsqu'on shake un cocktail, c'est qu'il contient un blanc d'œuf, de la crème, du lait ou un jus de fruit. Okay. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a quand même deux techniques qui se dégagent. Il y a la technique du cocktail frappé, c'est-à-dire un cocktail qu'on va vraiment secouer de toutes ses forces pour avoir un maximum de fraîcheur. Et l'autre cocktail qu'on va vouloir émulsionner, c'est-à-dire que là, on va shaker avec un maximum d'amplitude pour avoir une émulsion lorsqu'on va servir le cocktail. Voilà, c'est les deux techniques principales qu'on va utiliser.
Est-ce qu'on met toujours des glaçons dans un cocktail ?
Alors oui, et bien que souvent on nous dit « Ah, arrête de mettre des glaçons ou tu as mis trop de glaçons ». Alors en fait, la glace, c'est vraiment l'élément essentiel dans un cocktail. En fait, la glace, elle va avoir un rôle sur l'aspect, l'apparence du cocktail. Si vous prenez une caipirinha, ça va être servi sur glace pilée. Et c'est vrai que tout de suite, si elle est servie sur glace cube, ça n'a pas la même apparence. Ensuite, ça va bien entendu libérer les arômes et apporter de la fraîcheur. En fait, lorsqu'on fait un cocktail, on souhaite apporter de la fraîcheur pour justement atténuer l'alcool. Il y a deux techniques par rapport à la glace sur les cocktails. On dit « straight up » or on the rocks. En fait, straight up, c'est un cocktail qui va être rafraîchi au shaker ou au verre à mélange et servi sans glace. Contrairement on the rocks, où là, le cocktail va être servi sur glace cube. Donc, il va être plus ou moins dilué. Après, la glace, vous pouvez maintenant l'acheter. C'est quand même plus accessible. Et même pour les puristes, on peut trouver des jolis cubes de glace pour faire des cocktails personnalisés. C'est vraiment
genre
une tendance
des
aussi.
Des cubes qui ont des formes particulières.
Oui, c'est ça. Oui, exactement. En fait, la clear ice, donc cette glace claire, limpide, c'est vraiment une glace, une technique qui vient du Japon et qu'on utilise aujourd'hui dans le monde du bar. Ça permet d'avoir des cocktails qui sont très, très élégants et surtout en dégustation. Ça permet aussi d'avoir des cocktails qu'on va déguster plus longtemps et qui vont rester frais plus longtemps sans trop de dilution. D'accord. Donc la glace est très importante.
On part sur les recettes avec un cocktail avec alcool et un mocktail, s'il vous plaît. Alors le premier, c'est le gin basil smash, c'est ça ?
Oui, alors le gin basil smash, j'aimerais tant vous le faire déguster. C'est vraiment...
bien sûr.
C'est à base de basilic. Cette herbe aromatique, c'est vraiment l'herbe aromatique contemporaine qu'on utilise depuis 10 ans dans les cocktails. Habituellement, c'est en cuisine, mais c'est tellement bon dans un cocktail marié avec du jus de citron et du sirop de sucre. Alors, le cocktail est au shaker. En fait, il faut prendre une bonne poignée de basilic, donc généreusement, l'incorporer dans le shaker avec un doseur de jus de citron non traité, un doseur de sirop de sucre. Et là, il faut écraser avec un pilon vivement afin justement d'avoir la couleur et de libérer tous les parfums du basilic. Et ensuite, on ajoute le gin. Et là, on va secouer vivement pour avoir un maximum de fraîcheur. Et ensuite, on filtre le contenu du shaker dans un verre sur glace. Et c'est vraiment un cocktail estival. J'en ai fait plus que des mojitos. C'est vraiment un cocktail qui, moi, m'a permis de faire découvrir le cocktail en France. C'est un cocktail qui a été conçu en 2008 à Hambourg par Jörg Meyer et que je me suis réapproprié. Il est vraiment délicieux.
Ah bah ça donne très envie, avec modération évidemment, parce que c'est important de le dire, mais ça donne très envie.
Bien sûr.
Un petit mocktail aussi pour la route, le Watermelon Smash ?
Oui, alors ce mocktail que j'ai choisi, c'est un mocktail que j'ai créé lors du marché à manger à Rennes il y a quelques années, et c'est un cocktail de saison. Donc en fait, la pastèque est gorgée d'eau, mais c'est également très fruité, et du coup, c'est du jus de pastèque que vous allez mélanger avec un brin de coriandre, du sirop de rose et du jus de citron non traité. Et là, vous avez vraiment un cocktail très estival que vous pouvez préparer même le matin et mettre en bouteille, parce que une des tendances de cette année, c'est le cocktail à emporter, le ready to drink comme on dit. Et c'est vrai que ce cocktail là est très frais, il se conserve 24 heures pour le déguster en fin d'après-midi.
Alors on fait comment ?
On prend le jus de pastèque, la coriandre, le sirop de rose. On peut également incorporer du sirop d'hibiscus, si vous en trouvez, généralement c'est en épicerie bio pour les deux. Donc hibiscus ou sirop de rose, et donc jus de citron. Et là, c'est également au shaker, voire au mixeur. Voilà, si vous n'avez pas de shaker, vous pouvez également le faire au mixeur, et puis ensuite le servir bien frais. Mais ça, c'est vraiment un cocktail assez exotique, avec... des arômes un petit peu d'Inde sur la coriandre, la pastèque et la rose. D'accord. C'est vraiment très agréable. Ouais.
Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour ces recettes qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux de Nous Voilà Bien, et puis qu'on doit retrouver également dans votre livre aux éditions du Nord,
Mon
cours de cocktail. Et puis je rappelle aussi que pour ceux qui vivent à Rennes et dans les alentours de Rennes, bah, ils peuvent venir prendre des cours à l'atelier cocktailier. Ça doit être trop bien. Merci beaucoup, Johan.
Merci
beaucoup, d'avoir été avec nous. Vous savez ce qu'on se fait à la fin de cette émission ? On se fait des bisous. On va se faire des bisous, les bisous de Philippe Catherine. Merci beaucoup, Johan, d'avoir été avec nous. À très bientôt sur RTL. Merci. Nous voilà bien, c'est fini pour aujourd'hui. Vous le savez, vous pouvez réécouter notre émission en replay sur RTL.fr et en podcast sur les plateformes dédiées. N'hésitez pas à tester les recettes de cocktails, hein, et puis dites-nous-en des nouvelles. Elles sont à retrouver sur notre page Facebook. Moi, je vous donne rendez-vous lundi à 14h30 pour En effet pour s'entendre, votre magazine du partage et de la réflexion. Et puis samedi prochain, 9h15, pour le dernier numéro de la saison de Nous Voilà Bien. Je vous souhaite un excellent week-end à l'écoute d'RTL. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.